Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération Anarchiste. C'est la société dans tous ses états qui, pour une fois, commence à l'heure. Il est 18h, la société dans tous ses états, Radio Libertaire, 89.4, la voix sans limite de la Fédération Anarchiste. Aujourd'hui, je vous propose la rediffusion d'une émission qui a été réalisée en décembre 2017. Il s'agissait d'une émission portant sur la sociologie, le postmodernisme, avec Arnaud Saint-Martin. Avec Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Nous accueillons Arnaud Saint-Martin pour parler de sociologie. Alors Arnaud Saint-Martin, tu es sociologue, tu travailles au CNRS. Tu te présentes en deux mots,
je suis au CNRS depuis quelques années maintenant et je travaille sur les objets techniques scientifiques et notamment l'astronautique. Je fais des terrains dans la Silicon Valley pour étudier le New Space et ses gourous comme Elon Musk qui promet d'aller sur Mars.
D'accord, quand il reviendra de Mars, tu viendras nous raconter.
Peut-être. Peut-être que j'irai avec lui pour ethnographier.
Ethnographier la sociologie de la planète Mars. Voilà, aujourd'hui on t'accueille dans notre émission, dans la suite de l'émission qu'on avait faite il y a deux mois avec Philippe Huneman, dans une petite série consacrée au postmodernisme. On avait parlé du postmodernisme dans le domaine de la philosophie, et Philippe Huneman nous avait régalé avec un canular sur Alain Badiou. Et aujourd'hui, on va aborder la même question du postmodernisme, mais dans le domaine de la sociologie. Et là encore, un canular dont tu vas nous présenter les tenants et les aboutissants. Et surtout le titre, moi, que j'adore. Donc c'est un article qui est paru dans une revue de sociologie qui s'appelle « Société ». Automobilité postmoderne, quand l'autolib fait sensation à Paris, et c'est signé d'un certain Jean-Pierre Tremblay, et c'est paru, c'était en 2014, hein, c'est bien ça ?
Oui, ils étaient en retard, hein. Ça a été publié en mars, en janvier, ils étaient en retard à l'allumage, mais c'était, oui, la datation c'est 2014. Ouais.
D'accord, donc c'est dans le numéro 126 de la revue Société, on peut le trouver sur internet. Alors, qui c'est ce Jean-Pierre Tremblay ?
Alors Jean-Pierre Tremblay, c'est une vue de l'esprit, c'est un personnage conceptuel que j'ai inventé avec des amis, Jérôme Lamy et Emmanuel Quinon. C'était sur le terrain, en fait, je faisais de l'ethnographie dans un salon de l'innovation à Munich, et je voyais des trucs vraiment grotesques, et notamment toute une communication qui enrobait le spectacle de ces techniques, et je me disais, c'est du Maffezoli, quoi. On dirait du Maffezoli, c'est complètement grotesque, c'était la technique qui sauve le monde, qui était, comment dirais-je, c'était encore des satellites, hein, c'était encore l'astronautique, et donc, bon, ça me faisait rire, et je m'étais dit, mais pourquoi pas faire une espèce de canular sur ces façons de présenter les technosciences aujourd'hui, et avec Jérôme, au retour dans l'avion, on s'est dit, mais on va prendre un objet technique, n'importe lequel. De toute façon, tout fait ventre, hein, pour faire des canulars. Et j'avais pensé à l'autolib parce qu'il y avait un côté urbain, connecté, vertueux parce qu'électrique, etc. Et en proposer une sociologie, mais complètement grotesque. Et il n'y avait pas du tout de plan. Hein. C'était simplement faire un texte, hein, une espèce de parodie. Et donc, c'était all inclusive. Hein. Après, il fallait penser l'auteur. Et très tôt, j'ai pensé à Jean-Pierre Tremblay. Parce que Tremblay, si vous allez au Québec, vous verrez que c'est un nom très courant, Tremblay. Et Jean-Pierre, bon, je sais plus pourquoi. Et l'idée, en fait, bon, du Québécois, c'était pas français, donc pas complètement repérable, et d'inventer ce texte. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas le soumettre
D'accord. Et l'idée initiale, c'était pas forcément de lui
publier. Pas vraiment. C'était, moi, j'ai fait pas mal de pastiches, en fait. Hein. Ouais. J'aime beaucoup l'Oulipo, enfin la littérature à contrainte, voilà, ce genre de choses. Et on s'est pris un peu au jeu, quoi. Dans l'avion, sur la petite tablette, j'en avais fait un plan détaillé. Grand 1, design de l'objet. Grand 2, usage. Et on commençait à faire des associations d'idées complètement folles, avec des métaphores un peu foireuses et tout. On parlera peut-être du contenu scientifiquement très robuste de cet article. Et à force, en fait, on a eu plein d'idées, quoi. Et très, très rapidement, on a sorti 8 ou 9 pages. Et après, on fait exister un monstre et on va jusqu'au bout. Et très rapidement, donc, ce Jean-Pierre Tremblay s'est créé une adresse mail. Gmail, c'est pas bien.
Et oui, ça passe facilement, ça. Ça passe.
Et il a contacté la rédaction de la revue Société, qui est donc la revue de Michel Maffezoli, qui était le grand inspirateur de cet article. Et on a fait ça avant l'été. Et franchement, moi, j'y croyais pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais écrit mon mail avec des présentements, enfin, plein de québéquisme.
Oui.
Et je pensais qu'il allait...
C'est excellent.
C'est excellent. et je pensais qu'ils allaient le repérer. Oui. Et on passe l'été. J'avais presque oublié. Hein. Et à la rentrée, je me dis quand même, je vais peut-être les relancer. Enfin, et là, surprise, une réponse. L'article est en cours d'évaluation. Qui était quand même ouais, très bien. On veut savoir ce qui va se passer. Et l'évaluation n'arrive toujours pas. Donc je relance, enfin, Jean-Pierre relance. Alors, c'est marrant parce que j'ai failli signer Arnaud Saint-Martin sur le deuxième mail. Cordialement, Arnaud Saint-Martin. J'aurais été repéré directement, ça aurait été terrible.
Et tu expliques sur le site, on verra tout à l'heure. Qu'il y a aussi des problèmes d'heures.
Tout à fait. Hein, alors, moi, fuseau horaire. Enfin, franchement, j'ai fait ça très bien. Hein, ouais. Donc, j'écrivais ça à 14h, enfin, pour 9h le matin. Enfin, ouais. Et finalement, une réponse. Votre papier est accepté. Alors, j'ai un souvenir en fait, très net de ce sentiment qui a parcouru mon corps. Une espèce de joie intense, hein, de waouh, on a réussi un truc un peu étrange, mais en même temps, de vertige. Vous êtes sûr d'avoir accepté ce papier ? Il est vraiment stupide. Et donc, joie intense, je partage avec Jérôme et Emmanuel le mail que j'avais reçu. Mais quand même, joie de courte durée, puisqu'il y a quand même eu une évaluation. Et l'évaluation était extrêmement rigoureuse et sévère, puisqu'il s'agissait de couper 10 000 signes de cet article.
C'était trop long.
Alors bon, là vraiment, moi j'étais triste parce qu'il y avait des notes de bas de page extraordinaires avec des références qui allaient jusqu'à très loin.
Ouais.
Et notamment quelques blagues qu'on a dû enlever. Ouais. Donc c'était un peu triste. Donc on a descendu la longueur à 23 000 signes, ce qui est très peu pour un article entre guillemets scientifique.
Ouais.
Ils l'ont accepté directement. Et la grande question c'était, est-ce que les photos que vous associez à cet article sont libres de droit.
Ouais.
Alors, en l'occurrence, c'était moi qui avais pris les photos avec mon smartphone. En plus, j'avais intentionnellement mal cadré les photos. Alors, il y avait des autolibs. Par exemple, j'avais fait une photo d'un pare-brise avec une crotte de pigeon sur le pare-brise. Et j'avais fait un jeu de mots en légende. J'avais mis pare-brise, pare maudite. Pare maudite, bataille, etc.
Bien sûr.
Aucun sens, mais bon. Et ça, c'était passé, et non seulement c'était passé, mais en plus, ils me demandaient les droits pour remettre la photo. Et donc, le papier est accepté, ça va paraître, on n'en sait pas beaucoup plus, ils ne demandent aucune espèce de renseignement sur Jean-Pierre Tremblay, ils ne vérifient pas qui il est, donc ça passe comme une lettre à la poste, et vient le moment plus difficile de l'explication. Pourquoi ?
Alors, voilà. On va en rajouter, mais cette revue Société, qu'est-ce qu'elle a comme impact ? Dans le milieu universitaire, est-ce que c'est une revue...
Ouais, présente son directeur pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas nécessairement.
Alors, la revue Société, c'est une revue qui existe depuis 1984, qui est une revue de sciences humaines et sociales, de sociologie principalement, qui a été fondée par Michel Maffezoli, qui était prof à Paris 5, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et qui proposait des analyses extrêmement variées sur tous les objets possibles, imaginables, qui traversent la société et la culture. Et au départ, c'était une revue qui était assez installée, avec des plumes reconnues, hein, qui signaient, des Boudons, des Touraine, enfin, il y avait des portraits de tous les grands sociologues de l'époque. Donc c'était une revue qui n'était pas non plus extrêmement légitime. C'était pas la revue dans laquelle publier pour avoir un poste à l'université, par exemple.
Mais c'était... Est-ce qu'on peut comparer à une autre revue
L'idéal, au départ, de ce projet, parce que j'en ai fait l'histoire dans un bouquin qui paraîtra bientôt sur cette question, c'était de faire une espèce de science humaine. Vous voyez, le magazine science humaine qui n'existait pas encore à l'époque. Et Maffesoli, avec d'autres, notamment Edgar Morin, avait ce projet de faire une espèce de magazine de sciences humaines, en kiosque.
C'était un magazine grand public.
Grand public, ouais. Avec le format La Recherche. Ouais. C'était ça l'idéal. Ça n'a pas marché. Enfin, visiblement, il n'y avait pas les financements. Donc, ils se sont rabattus sur un format plus light, donc une vingtaine de pages. Donc, c'était vraiment c'était un tout petit, toute petite revue au départ. Format A4, un peu acte de la recherche en sciences sociales de Pierre Bourdieu. Il y avait toujours cette comparaison qui était clairement implicite. Et pendant des années, il y a eu des numéros qui étaient tout à fait corrects. Par exemple, je m'en rappelle ce que j'ai épluché à la BNF, tous les numéros. Il y a un numéro sur l'ethnométhodologie qui est très bien. On apprend à connaître Garfinkel. Il y a un numéro sur Goffman.
Garfinkel, Goffman. C'est pas le chanteur, hein.
Non. En solo, là, cette fois-ci. Et donc, c'était une revue relativement installée, mais très rapidement qui s'essouffle. Toujours les mêmes auteurs, ça publie en vase clos autour de l'école de Maffesoli. On va en parler un peu de sa sociologie. Et donc, qui devient très vite monocolore, très relié au réseau étudiant de Paris 5, qui publie leur premier papier dans Société, etc. Et la revue, bon, est de moins en moins lue, malgré un passage chez Debuck, je crois au début des années 2000.
L'éditeur,
L'éditeur
scientifique.
Voilà.
Renommé,
qui est renommé. Ouais. Mais on peut pas dire qu'en termes de tirage, de distribution, de valorisation, ce soit une revue qui circule vraiment, quoi. Et elle vivotait depuis les années 2000. Et moi, bon, je connais vraiment tous les sommaires, donc j'ai vraiment épluché depuis. Et on se rend compte vraiment que c'est une revue de clics. Il y a en gros une trentaine d'auteurs qui publient constamment dedans et que dans cette revue. Et Jean-Pierre Tremblay arrivait dans cette structure avec cette sociologie qui était un décalque de celle de Michel Maffesoli.
Mais alors, l'idée de base, donc, c'était de faire un pastiche à partir d'un objet technique. Donc là, c'était l'Autolib que tu as choisi avec tes comparses. Mmh. Tu avais déjà l'idée de publier dans cette revue, dans Société, ou alors c'est venu au fur et à mesure de l'élaboration?
C'est venu au fur et à mesure parce que le papier est devenu un peu plus copieux, quoi, au fur et à mesure. Et j'ai pu le souvenir exact. Enfin, je pense pas qu'il y avait cette intention. C'était tellement. Enfin, ça pouvait pas passer de fait. Enfin, ça me paraissait tellement.
Bête. Vous avez été un petit peu dépassé à un moment donné par l'ampleur de ce que.
Exactement. Ouais. Et puis, une fois qu'on obtient le papier avec son résumé, son titre, ses jeux de mots et tout, ça devient réel. Et donc, on l'a proposé. Mais il y avait pas cette intention critique, par exemple. Oui. Qu'on voit dans le long papier d'explication dont on va parler après, où on explique pourquoi on l'a fait. Et en fait, on a pris un temps fou à l'écrire, ce papier, pour vraiment expliquer les raisons qui nous ont motivés, qu'on a dû reconstruire a posteriori parce que c'était pas si clair que ça sur le moment. Ceci dit, on va y venir, mais il y avait clairement une intention critique qui parcourait le pastiche. Mais le pastiche, en tant que tel, c'est presque une œuvre de paralittérature. Il n'y avait pas une vocation intrinsèquement critique de ce texte. C'est après qu'on l'a coloré de cette intention.
Alors, on peut faire comme ça peut-être même une sociologie du canular sociologique. Il y a quand même des précédents célèbres. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le canular de Sokal, 96, hein, c'est ça ?
Oui. Oui, c'était un canular, moi qui m'avait fasciné à l'époque, enfin quelques années après, parce que j'étais un peu trop jeune, puisque j'avais fait ma maîtrise de sociologie sur l'affaire Sokal. Donc j'avais déjà un petit peu travaillé sur ces questions.
Voilà,
c'était
donc,
pas non plus.
Il y avait un antécédent.
Ouais, c'est pas qu'il y avait un continuum comme ça, et que ça devait arriver un jour ou l'autre que je fasse un canular de ce type-là. Mais disons que j'avais étudié la question à l'époque, ça m'avait passionné parce que c'était un révélateur des dynamiques dans le champ intellectuel français à un moment donné, avec des circulations transatlantiques un peu compliquées, parce que ce que dénonçait Sokal depuis les États-Unis, c'était pas forcément bon. Il y avait des malentendus, des incompréhensions. Il a été reçu comme un méchant rationaliste en France, alors que bon, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la philosophie, la littérature, enfin bon. Et donc ce canular, c'était en gros une espèce de pastiche de toute la prose postmoderne. En cultural studies, etc., qui commençait à sévir sur les campus américains, avec un titre dont j'ai oublié.
Transgresser les frontières et pour.
Vers une herméneutique de la gravité quantique.
C'est ça, un truc comme ça.
Donc c'était, voilà, il y avait plein de références à tous les auteurs incontournables de l'époque. de Derrida, Deleuze, etc. Donc toute la French Theory, hein, qui cartonnait à l'époque sur les campus américains, et une vision très politique, sous couvert de sciences alternatives, en gros. Et il l'avait publié dans Social Text, qui était une revue qui avait son importance, mais qui n'était absolument pas centrale, mais qui était publié par des penseurs critiques des campus américains, et il l'avait révélé avec une intention très politique, hein. C'était dénoncer les fourvoiements de la gauche intellectuelle américaine, en montrant toute l'inanité de toute une prose philosophique qui passait à côté des vrais problèmes politiques,
idéologiques. Et qui empruntait un discours scientifique sans rien y comprendre.
Exactement. C'était surtout, voilà. Il y avait des arguments d'autorité sous couvert d'analogies scientifiques un peu foireuses. Donc il y avait ce précédent qui a créé une guerre de tranchées hallucinante, hein, notamment en France. Il y a eu des bouquins, des tribunes à n'en plus finir, entre 1917-18 jusqu'à 2000 peut-être.
Parce que Sokal, ensuite, il va publier avec Bricmont en France.
Voilà, Imposture intellectuelle, qui est la deuxième étape, hein, de la controverse, qui n'était pas forcément préméditée par Sokal au départ, hein, qui est une espèce de généralisation où ils essayent de démasquer les imposteurs, en montrant la bêtise de leur pensée, exemple à l'appui, et en déconstruisant, en cernant les enjeux, etc. Moi, j'avais trouvé ça assez salutaire, hein, à l'époque, quand je me formais à la philosophie, et je lisais des gens comme Jacques Bouvresse, etc. Bon, pour moi, ils étaient du bon côté, hein, évidemment. Et en même temps, ça m'avait fait vachement réfléchir, parce que c'était les sciences humaines aussi qui étaient attaquées, d'une certaine façon, hein, certaines sciences humaines. Donc il y avait la question du positionnement rationaliste qui était en jeu, et moi ça m'avait passionné, et notamment le positionnement de l'analyse, comment rendre compte de ces controverses quand on a un pied dedans, hein. Oui. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec Tremblay, parce que au jour le jour, parce qu'on a été pris dans une polémique aussi, il a fallu écrire des tribunes dans Le Monde et tout pour expliquer notre positionnement. Et moi qui suis sociologue des sciences, qui m'intéresse aux questions d'autorité en sciences, aux conflits d'autorité, j'étais pris dans un conflit d'autorité moi. Bien aussi, sûr. où on attendait de moi qu'on dise, mais alors c'est quoi la sociologie, hein? Est-ce que c'est un imposteur? Si oui, qu'est-ce qui le prouve? Donc il fallait que je serve sur un plateau une définition autorisée de la sociologie, ce qu'a dû faire aussi Sokal à un moment donné de la science. Donc ça, c'était le précédent Sokal, qui a en effet suscité des émules dans la critique rationaliste dans les années 2000.
Pour revenir au texte de Tremblay, il y a une façon d'écrire, une façon de présenter cet objet technique, donc de l'autolib, qui est tout à fait particulière. C'est pas n'importe quelle forme d'écriture de sociologique. Elle est tirée de quelque part. Elle vient, et si elle est acceptée par la revue Société, donc fondée et dirigée. Non, elle est plus dirigée par Maffesoli au moment où elle est acceptée.
Elle est encore.
Mmh. Si elle est acceptée là, c'est parce que finalement, elle y trouve sa place, non pas tant sur le fond, parce qu'y a-t-il un fond, c'est vertigineux.
Mais c'est une béance.
Mais voilà, une béance. Merci, c'est le terme maffesolien. Vous avez ouvrir une béance. L'oxymore, hein,
voilà,
c'est ça.
Et une parce béance que, pleine.
Voilà. Et en fait, c'est parce que vous avez. Vous montrez quels sont les codes, en fait. En fait, tout ça, c'est une histoire de codes partagés, de langage. Et voilà, j'aimerais que tu nous en dises quelques mots. D'où ça vient, comment vous avez utilisé cette langue très particulière à cette sociologie elle-même très particulière.
Alors déjà, la première réponse, c'est que nous l'avons eu comme prof. D'ailleurs, il l'a dit dans les médias en disant c'est mes anciens étudiants. Non, on l'a juste eu en amphi. C'est quand même un peu différent. Si on n'était pas ses élèves, par exemple.
Oui, il n'a pas fait un travail de recherche dirigé par...
pas du tout. J'aurais pu. Mais heureusement, j'ai été remis dans le droit chemin par un grand rationaliste de Paris 5 à l'époque. Mais ceci dit, on l'a eu en cours, donc on connaissait le langage, c'est-à-dire l'usage de l'oxymore, donc on en a parlé.
Donc l'oxymore, c'est les contraintes, c'est les contraires, voilà. Hein, c'est le clair-obscur. Voilà. C'est l'oxymore.
Et donc, il y a une vision du monde, en fait, qu'il faut maîtriser. C'était une acceptation du devenir contemporain, du tragique de l'existence, du fait que nous sommes tous solidaires dans des rapports de ce qu'il appelle la socialité, nous sommes dans l'orgiasme. En flux tendu, dans une espèce de libido.
Écarter les enfants.
Voilà, ça peut devenir sexuel, attention. Oui, il est 18h, c'est bon. Et donc, en gros, c'est l'érotique sociale, donc nous collons les uns aux autres, c'est les foules, l'affoulement, l'affrèrement, comme il dit aujourd'hui. Et donc, c'est une espèce de sociologie de la jouissance d'être ensemble, le vivre ensemble, et tout est bon pour jouir. Hein, et alors, dans l'autolib, typiquement, alors on pourrait pas imaginer comme ça, hein. Mais je me suis un peu forcé.
Pour avoir utilisé Autolib voilà. Quelques fois, c'est pas très confortable.
Hein. Et bien finalement, si. Alors moi, j'ai toute une description où je dis, en gros, vous entrez dans cette petite auto et vous êtes serrés les uns contre les autres. Dans une transe qui va durer le temps d'un petit voyage, une déambulation urbaine. Et le fait d'être serré peau à peau, corps à corps, va créer une espèce d'érotique, le temps d'un instant, carpe diem. Et là, vous avez une espèce de jouissance postmoderne dans l'instant dionysiaque, hein, qui fait système. Et là, vous avez donc une espèce d'exemplification du postmoderne à la Maffesoli. Et là, ça peut que marcher. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que sur l'interprétation des codes rhétoriques, Jérôme Lamy, avec qui on a fait le canular, lui il connaissait pas si bien que ça la philosophie sous-jacente très organiciste.
C'est presque du botulisme, ça, non ?
Ben oui, d'ailleurs, on est en contact avec Botul, donc je suis très fier d'ailleurs, les fronts convergent. Et sur Jérôme, par exemple, dans son analyse de la jouissance autolib, il était passé à côté, par exemple. Parce que là, tu prends l'autolib. Tu décroches le petit cordon ombilical de la matrice utérine et tu pars à l'aventure dans la ville, hein, errer pour trouver une prochaine station. Hein. Et Jérôme disait, à la fin, épuisement, petite mort. Tu t'es transcendé dans l'acte de la conduite. Et là, j'ai dit, faute d'analyse, Jérôme. Non, là, c'est jouissance en continu. Tu raccroches et tu reprends une autolib et c'est la jouissance continue. Donc il y avait des espèces de... Bon, on se marrait beaucoup. Et tout ça pour dire que l'autolib, il n'y a rien à voir avec la jouissance. Bon, je ne pense pas, je ne suis jamais entré dans une autolib.
J'y suis rentré, je n'ai pas... Non, pas son nom. Non, bon. Vraiment.
Et donc là, voilà. c'est, en termes de jouissance, bon, on n'imagine pas trop. Mais simplement, le mécanisme, c'était plaquer, mais de façon complètement aveugle, une vision du monde sur un objet et l'épuiser au maximum sans avec une indifférence absolue à la contradiction. Voilà. Peu importe, ça marchera, l'analyse. Donc il y avait l'oxymore, la jouissance, il y a la question du devenir contemporain et l'idée aussi, et ça c'est le plus important, que tu valorises un objet technique. Que ça sert quelque chose quand même. In fine, bah, c'est le service Autolib, la mairie de Paris, et donc tu as une sociologie qui vient valoriser une politique, tu vois. Mmh. Et à la fin, la conclusion, c'est quand même, regardez comme ce bel objet nous fait être ensemble, et comme c'est beau l'Autolib. Merci Bertrand Delanoë.
On pourrait imaginer, à contrario, une enquête sérieuse sur les usages d'un véhicule en libre service électrique qui correspond à tel ou tel éventuel besoin ou nécessité dans une ville moderne, polluée, où les transports sont compliqués. Mmh. Mais là, ça demande un boulot de terrain, ça demande d'aller voir des gens avec un carnet de notes, un stylo, d'interviewer un panel d'utilisateurs... de recueillir leurs avis, ça existe, hein.
Tout à fait.
Je me souviens avoir lu il y a très nombreuses années la sociologie d'une file d'attente devant je ne sais trop quel service administratif. Et effectivement, il y avait matière à réflexion et à apporter une connaissance de ces comportements sociaux. Et a priori, la sociologie, ça devrait servir à ça, d'analyser un fait social, de le comprendre et de dévoiler certains aspects pas forcément évidents de la vie en société et tout des rapports entre les agents, les individus, les acteurs, etc. Là, c'est pas du tout le propos dans ce que tu viens de nous raconter. C'est une blague. Enfin, c'est drôle,
mais qui peut être prise très sérieusement.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est là où on a...
Tout à fait.
C'est ça qui est incroyable, c'est comment ce texte est reçu et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ?
Alors la question c'est, est-ce que ça a marché ? Ça c'est une autre question qui est passionnante.
Enfin, quand je dis ça marche, voilà. c'est que ça passe.
C'est publié. Alors pourquoi ça passe ? Et là on entre dans un autre moment qui est déstabilisant proprement du point de vue éditorial. C'est-à-dire que j'ai rencontré le rédacteur en chef de la revue. Parce qu'on a présenté le canular, on est un peu tout fou, on l'a présenté chez les Maffesoliens, à Montpellier, ça s'est très mal passé, on a failli en venir aux mains, c'était vraiment terrible.
C'est une réunion
Ouais, ouais, On était invité par les anthropologues et les politistes de l'université de Montpellier. Il se trouve que les sociologues là-bas sont très maffesoliens, ils sont branchés à fond là-dessus. Et donc le rédacteur en chef de Société est maître de conférence là-bas. Et c'était une conférence publique, et moi j'avais un petit peu provoqué, parce que je suis un peu provocateur, j'avais intitulé la conférence un canular pour secouer le cocotier, retour d'expérience, j'avais mis la photo avec la crotte d'oiseau. Et bon, bref. Et il y avait un comité d'accueil qui était là, tous les étudiants qui étaient remontés contre nous. Et ça s'est très très mal passé, ça a duré presque 3 heures. Et il y a un moment, vraiment, on a failli en venir aux mains avec un des tauliers locaux, professeur d'université, sociologue, qui nous a dit que c'était du terrorisme ce qu'on faisait, enfin c'était terrible. Et à la fin, donc le rédacteur en chef vient me voir. Et il se trouve que ce rédacteur en chef, avant de faire le canular, j'avais fait une recension d'un de ses bouquins. Tout vient de là, en fait. C'est un bouquin qui a été publié aux éditions du CNRS, Les Vénérables, un ouvrage qui s'intitulait La ville dans tous ses états. Voilà. Et cet ouvrage, c'était en gros Jean-Pierre Tremblay qui décrit le monde contemporain urbain, c'est-à-dire, une tour, c'est un phallus. Hein, oui. Bon, c'était à peu près ça, hein. Avec l'érotique des mouvements dans le métro, blabla. C'était vraiment ridicule, et j'avais fait une recension. Bon, qui était un peu sévère, je l'avais d'ailleurs intitulé « Bienvenue à ma fesse Hollande ». Et ça avait été refusé par une revue qui est sur Internet. Et moi, ça m'avait énervé parce que, en gros, c'était une revue de critique. Et l'argument qu'on m'avait opposé, c'était « Mais vous nourrissez le troll. Hein, ils sont mauvais, ça sert à rien de le dire, on le sait. »
Oui, mais en même temps, ils sont publiés au CNRS.
Aux éditions du CNRS.
C'est quand même
à l'époque,
aussi, d'ailleurs.
Il l'était, en effet. Et ce qui était terrible, d'ailleurs, j'avais envoyé une photo aux collègues de cette revue. Au même moment, chez Gibert, boulevard Saint-Michel, il y avait une table avec Durkheim, Weber, et puis ce livre. Je trouvais ça complètement fou. J'aurais dit, regardez quand même, ils sont présents. Hein. Et finalement, je l'avais publié, mais sur un obscur blog. Personne ne l'avait lu, ou personne que ça avait fait rire. En tout cas, j'avais complètement éparpillé, façon puzzle, ce bouquin. Et l'auteur vient me voir. Il est par ailleurs donc rédacteur en chef de la revue. Je me dis, il va me faire la peau, c'est normal. Puis voilà, je l'ai bien mérité. Hein. Il vient me voir et il me dit, c'était bien fait. J'ai bien aimé ta recension, vraiment.
Ah ouais.
C'était ouais. Et puis le canular, bon, mais ouais, Valentin, on l'a pas lu. Enfin,
il a quand même reconnu.
Ouais. Mais donc là, quelque chose de tout à fait intéressant du point de vue d'une sociologie des professions intellectuelles, l'indifférence par rapport à la vérité, et puis une espèce de cynisme, et puis de je m'en foutisme. On a une revue, ouais, historiquement c'est vrai, on est édité par Debuck. Certes, c'est sur Cairn, donc tout le monde peut accéder à ça, mais en fait, vous savez, la revue que j'édite, je ne la lis pas. C'est ce que disait d'ailleurs Maffesoli dans sa défense. C'est quand même hallucinant. Moi, j'édite une revue, je peux vous dire que je lis tout, hein, puis plusieurs fois. Et là, donc, quelqu'un qui vous dit, droit dans les yeux, je ne lis pas ma revue. Et peu importe. Donc là, on va peut-être parler de relativisme et tout, mais alors là, c'était une forme complètement assumée.
C'est du cynisme.
De cynisme.
Oui.
Voilà. Et venant d'un universitaire qui enseigne devant des amphis, je trouve ça... Enfin, on n'est pas loin de la faute professionnelle. Alors moi, je lui ai dit, hein, mais j'étais pas prêt à recevoir ce discours de je m'en foutisme. Parce que quand on est universitaire, qu'on fait des sciences sociales, ça prend du temps. Tu évoquais le type d'enquête qu'on pourrait faire sur Autolib. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mmh. Et ça existe. Hein. Je me suis renseigné sur Vélib, notamment. Il y a une très belle thèse qui a été faite là-dessus. Mmh. Sur le service, son histoire, la conception, les usages, la politique des transports. Bien sûr, oui. On peut faire des très belles enquêtes. Et là, quelqu'un, droit dans les yeux, va te dire « je ne travaille pas ».
C'est quand même assez... D'abord, c'est une révélation assez choquante, mais ça révèle quand même un certain nombre de choses sur ce milieu universitaire. Mmh. Alors, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, heureusement, c'est pas... Les universitaires travaillent, produisent, critiquent, s'autocritiquent. Alors, ça se passe plus ou moins bien. Il y a des sneakers, ouais. Et là, en l'occurrence, c'est quand même... Tu as levé un lièvre, d'une certaine manière.
Oui, alors, c'est là où ça devient difficile. C'est-à-dire que, quand on publie ce papier, tout le monde nous dit, bon déjà, pourquoi vous faites ça? La veille de la publication, j'étais un petit peu surexcité, parce qu'on savait qu'on avait fait un coup qui était quand même assez amusant, et que c'était quand même beaucoup de travail. Hein. On va y revenir sur la critique qu'on a faite, hein, qui accompagne le canular. Mais tout le monde nous disait, vous risquez de nous faire mal, hein, parce que, par effet d'amalgame, on va dire, mais regardez ces universitaires, tout chaud là, au chaud là, payé à rien foutre, qui se lisent même pas et qui écrivent des conneries, c'est terrible. Quel mal vous allez faire à la profession. Et moi, il me semble que laisser proliférer ce genre d'imposture, c'est quand même, à mon avis, dangereux, pour plein de raisons. Et si on s'empêche de dénoncer ça, déjà, on fait même pas son boulot d'universitaire. Parce que la critique, pour moi, c'est quelque chose auquel je crois très fort. Et la critique des pairs, par ailleurs. Et là, on a fait juste l'exercice normal d'une science sociale qui procède par l'esprit critique et le scepticisme organisé.
Alors, on a parlé de ce texte, mais ça serait bien qu'on en lise un petit extrait.
Ça serait bien, qu'on voit un peu. Ouais.
Je te laisse le lire.
Je peux le lire,
oui,
si vous voulez.
Vas-y.
Je peux le lire. C'est presque une performance, là.
Oui. Ouais.
Alors, c'est page 117, pour les fétichistes. Donc, outre le design de cette petite auto de 365 cm de long, il y a quand même quelques détails empiriques. On a été voir la fiche Wikipédia, bon, on s'est un peu renseigné un tout petit peu. La couleur de la plupart des autolibes, celle que nous avons empruntée dans nos déambulations lors de l'enquête de terrain, qui n'existe pas, donc là c'est un gros mensonge, témoigne de cette volonté de quasi-disparition dans le chromatisme urbain grisâtre. Communément appelé gris métallisé, l'enveloppe de carrosserie manifeste un refus obstiné de la coloration. L'abandon de toute signature colorée dit assez l'épuisement d'une urbanité vorace, phagocytant les pulsions de vie, absorbant la vivacité des couleurs. Mais le gris est force créatrice. S'il reste dans cette esthétique du gris une impression étrange d'anonymie, voire de castration de la subjectivité automobilistique, c'est en revanche le socle d'une revitalisation de l'imaginaire de la conduite. Elle est grise métallisée, donc disponible pour toute écriture inclusive. Attention. Elle se donne au commun, elle est le commun. Cela suppose l'abandon d'un self moderne qui s'accommodait des peintures industrielles pour l'accession de l'homo postmodernus au monde de la vie incolorée, c'est-à-dire libéré du pouvoir d'imposition de la palette chromatique qui accompagnait l'empire de la voiture du XXe siècle. À l'ontologie de la propriété individuelle, l'autolib substitue ainsi l'ontogenèse de l'appropriation collective. À la notion d'identité, la petite voiture substitue celle de l'identification comme suite de sincérité.
Ah, c'est beau, hein.
Ouais.
Ah, c'est beau, non, ça c'est... laisse sans voix.
Voilà. C'est oui, c'est... Il faut se creuser quand même pour sortir ça, sans être de la partie, quoi.
Une certaine poésie, hein, dans
c'est un spot publicitaire. Voilà.
Commence comme une éloge du gris, mais ça... Ouais.
C'est pas très cohérent. Enfin, le relisant après coup,
c'est même pas cohérent.
Pas du tout. On pourrait dire
ça n'a pas de logique,
l'inverse,
en plus.
Que ce gris est immonde il est urbain au sens de années 70, etc.
Exactement.
Je peux faire une hypothèse. Tous les termes que tu emploies dans ce texte-là, mais que tu as rappelé... dès lors qu'ils émanent de ce courant de pensée, toute cette libido en fait qui déborde sans arrêt, ces phallus qui sont partout, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un soubassement lié à l'attrait terrible, enfin l'attrait massif, là c'est un jugement de valeur, l'attrait massif de l'intelligentsia française des 40 dernières années pour cette psychanalyse très éroto-centrique?
Clairement.
Et qui fait quand même de mal aux idées.
Alors chez Maffesoli, oui, clairement, c'est une inspiration. Alors j'ai exhumé ses premiers écrits. Il citait Lacan en autorité. Il y a une inspiration de ce point de vue-là. Elle est aussi jungienne.
Ah oui.
Donc c'est l'inconscient collectif qui parle à travers tout, hein, le corps social, mais aussi donc tout ce qui en est l'expression, les objets techniques.
C'est un animisme.
Exactement.
Dans les objets.
Le corps social. Et alors, l'idée de l'organisme social que constituerait la société comme un tout traversé par des pulsions de vie, de mort, etc. C'est sous-jacent. Et là, c'est simplement une version un peu caricaturale, mais en fait assez littérale de ce que Maffesoli dit sur l'inconscient collectif. Et en effet, le sociologue, c'est le thérapeute de la sociologie, de la société, pardon, c'est-à-dire celui qui va sur son chevet écouter les manifestations les plus violentes, tous les spasmes de la société. Et parmi les expressions que lui analysait, donc il y avait, par exemple, à l'époque où j'étais étudiant à Paris 5, c'était le black metal. Le black metal, c'était le grand truc au début des années 2000. J'avais des amis, hein, étudiants à l'époque, qui s'étaient lancés dans l'analyse maffesolienne du black metal. Et donc là, on avait une nouvelle religiosité postmoderne.
Moi qui connais bien le domaine.
Mais ça tient pas debout.
Ça tient pas debout.
Ça tient pas debout, c'est ça qui est merveilleux. Mais peu importe. Ça, visiblement, ça marchait. Il y a un numéro spécial de Société sur le black metal, voilà, comme nouvelle religion, avec donc la pulsion d'être ensemble dans cette espèce de catharsis collective où on va, avec une musique extrêmement agressive qui évoque la mort, etc., le sang, l'adversité, créer des liens de clan, et tout ça dans une érotique mortelle, quoi.
Il y a un côté tribal qui
Oui, complètement. Voilà. Et c'est alors, généralement quand
surjoué.
On pense à Mafezoli, exactement. Mmh. Avec le côté totémique. Mmh. Et donc, quand on pense à Mafezoli, on pense généralement aux tribus. Mafezoli, c'est les tribus. Et donc, l'être ensemble, mais l'être ensemble dans une espèce d'adversité, de lutte à mort entre groupes, entre tribus, et à l'intérieur même de ces groupes. Il y a une espèce de violence totalitaire, disait-il, dans sa thèse de troisième cycle, non d'État. Et donc, c'est, en effet, il y a ce fil conducteur. Et qu'on n'a plus qu'à tirer, hein, une fois, sur n'importe quel objet, tous les ventres.
Tu as commencé donc à nous présenter un petit peu ses conceptions, ses concepts, ses idées. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? D'abord, qui est Michel Mafezoli? Quel statut il avait au sein de l'université française, dans la sociologie française? Il a commencé quand? Qu'est-ce qu'il a publié? Qu'est-ce qu'il a fait en quelques mots? Situer un petit peu ce personnage dont on parle depuis le début de l'émission.
Alors, sa trajectoire est intéressante. Alors, comme objet d'analyse, il est vraiment... Enfin, c'est suggestif, quoi. Mmh. Ça permet de révéler plein de transformations de la discipline sociologique depuis les années 60-70. Le simple fait, par exemple, il a été formé à Strasbourg et Grenoble, par des gens comme Julien Freund, Gilbert Durand et quelques autres, dans une approche de la sociologie très philosophique. Son mémoire de maîtrise que j'ai lu, que j'ai exhumé, c'est un mémoire sur la technique chez Heidegger et Marx. Et c'est une espèce de glose très, très scolaire de ces deux auteurs, sur 75 ou 80 pages, avec une citation de Hölderlin, la même qu'on utilise dans le canular Tremblay. Qui est dans le mémoire de maîtrise de Mafezoli. Alors ça, c'est pas la divination, mais c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, en gros, c'est un étudiant de philo, et comme beaucoup d'autres, dans les années 70, il découvre les sciences sociales. Ça s'ouvre, il y a des départements qui s'ouvrent à Grenoble, à Chambéry, ça c'était son maître Gilbert Durand, Montpellier et quelques autres encore, Toulouse. Il y a des postes à pourvoir, il y a de la recherche qui est financée par l'État, notamment dans la recherche urbaine. Ses premiers objets d'enquête, c'est la ville. Et l'objet ville a beaucoup agrégé de philosophes, de sociologues, d'anthropologues dans les années 70, des gens comme Baudrillard, des gens dont on a oublié l'existence aujourd'hui, hein, enfin, des gens qui ont complètement disparu de la carte. Et Mafezoli en fait partie. Il dirige une espèce d'équipe de sociologie urbaine. Il a un doctorat de troisième cycle à Grenoble. Et il travaille sur l'imaginaire de la ville, en gros. Et il publie des bouquins au PUF, Presse Universitaire de France, donc c'est pas rien. Ses premiers ouvrages sur, en gros, sur la violence totalitaire, je crois que c'est 1980 ou 78. C'est sa thèse d'État. Et en gros, c'est une espèce de diagnostic sur les transformations de la modernité et l'avènement de la raison. Et au départ, il est très école de Francfort, un marxisme un peu hétérodoxe, et une critique de la raison moderne. Et très rapidement, il va embrayer sur la critique de la modernité qui ouvre, sur la postmodernité, sur le salut, hein, que constituerait ce moment qui s'ouvre à partir des années 80, donc il y a Lyotard qui est arrivé, etc.
Parce que la modernité est responsable des camps de concentration,
voilà. Évidemment.
Donc il faut en sortir.
Voilà, exactement. Donc il y a toute cette rhétorique très francfortoise qui est reprise et que lui amalgame à sa sauce avec un petit situationnisme par-ci. Et il va dire qu'il a connu, Debord. Alors c'est invérifiable. Hein. Moi j'ai contacté les gens qui ont travaillé sur Debord, qui ont connu Debord. Ils me disent que non, il a jamais été bon. Donc il a toujours été dans les bons coups du point de vue des gens avec qui, enfin, qu'il fallait fréquenter. Il y a eu Lefebvre aussi à Strasbourg. Lefebvre qui après voulait plus du tout entendre parler de Mafezoli. Enfin, passons. Mais bref, il était dans ce milieu de la philosophie sociale critique post-marxiste des années 70. Et il publie un ou deux bouquins qui sont remarqués, hein, au PUF, qui sont édités par Georges Balandier, qui est pas n'importe qui à l'époque, anthropologue à la Sorbonne. et qui a une chair, qui est extrêmement renommée, qui a un pouvoir assez considérable à l'époque, et qui le fait venir à la Sorbonne en 1980, qui le fait élire contre Jean-Claude Passeron, qui était... qui est connu pour avoir écrit « Les héritiers » avec Pierre Bourdieu. Et donc, il obtient cette chaire de sociologie. Il va créer un centre, le CEAC, le Centre d'études de l'actualité du quotidien, en 82, avec Georges Balandier. Et il va lancer ce programme de recherche sur le quotidien, l'imaginaire du quotidien. C'est l'Eldorado du début des années 80 en sociologie. Tout le monde s'y intéresse. Plein de sociologues à l'époque. En gros, c'est la fin des grands récits, la modernité, etc. Il faut revoir les petites choses du quotidien, la force de ces petites choses qui font les rapports entre les gens, le foyer, la famille, ce genre de thématiques. Et lui arrive avec un discours bien packagé pour penser ces choses-là, puisqu'il s'intéresse à l'affect, l'émotionnel, le rapport entre les gens, etc.
Et ça correspond à une époque, comme
ça. Ça correspond tout à fait, c'est les années 80, hein, c'est la décennie 80, avec tous ces penseurs. Un des grands thèmes, donc il y a le quotidien, il y a aussi l'individualisme. Lipovetsky, tous ces diagnostics sur la montée de l'individualisme. Et là où il est très fort, Maffezoli, c'est qu'il retourne à chaque fois les diagnostics. Et plutôt que de dire c'est la montée en puissance de l'individualisme, non, au contraire, c'est la montée en puissance du tribalisme. C'est l'avènement des tribus, du tribalisme de masse, avec ces foules érogènes là, qui errent dans les villes urbaines connectées, les tribus. Et ça va radicalement contre ces diagnostics sur l'individu contemporain. Et ça le fait remarquer. Il y a un côté un peu sulfureux. Et très rapidement, d'ailleurs, et c'est une des façons dont il s'est distingué, c'est qu'il s'est intéressé à des objets qui sont difficilement sociologisables parce qu'un peu étranges. Alors, ça va être le libertinage. Les premiers portraits dans le monde, c'est le sociologue sulfureux à nœud papillon, parce qu'il y a toute une façon aussi d'apparaître dans le monde social. Il est vêtu avec un nœud papillon, donc c'est l'homo academicus dans toute sa pureté, on pourrait dire. Et il se saisit d'objets comme ça, voilà, qui sont difficiles à regarder de près. Donc libertinage, ça va être le Minitel Rosa après, l'homosexualité, c'est lui qui lance, et là c'est à son crédit, hein, les premières études en France sur ces questions-là. Toute une série d'objets qui étaient considérés comme un peu marginaux, qu'il va rapatrier en Sorbonne, sur lequel il va construire son magistère, légitimer, et puis après consolider quelque chose comme une sociologie de la postmodernité, avec sa conception à lui du postmoderne, qui n'est pas forcément celui de Lyotard, qui n'est pas forcément celui des penseurs de Francfort, et comme Habermas et autres. Lui, c'est la postmodernité comme moment de jouissance où le corps social va se retrouver dans une consolation vis-à-vis de la mort, de nos destins tragiques, etc. quoi. Et ça, c'est Maffezoli dans les années 80, donc prof à la Sorbonne, reconnu, on peut le dire, même si, bon, il est critiqué à la marge, les premières recensions de ses bouquins sont pas hyper favorables, si on va voir dans les archives, mais n'empêche qu'il dirige des thèses, de plus en plus, il siège dans les instances, il est prof à Paris 5, encore la Sorbonne à l'époque, donc on a un professeur qui est relativement reconnu et accepté, quoi.
Et alors, il va se faire connaître du grand public pour avoir dirigé une thèse très particulière, celle d'Elisabeth Tessier. Est-ce que tu peux nous rappeler cet épisode tragicomique où l'université française, une partie d'entre elles du moins, s'est plutôt couverte de ridicule
Alors ça, c'est une histoire qui est truculente, parce que alors, moi, je l'ai vue pas de l'intérieur, ça serait beaucoup dire, mais j'étais étudiant à l'époque. Hein, j'étais en DEA, le Master 2 d'aujourd'hui, à Paris 5, quand ça s'est passé, c'était en 2000-2001. Et je me rappelle très bien l'ambiance assez difficile, hein, dans la faculté des sciences sociales, puisque donc il était question de cette soutenance de Madame Germaine Anselman, de son vrai nom, qui aurait pu passer complètement inaperçue. Hein, ça aurait pu passer inaperçu. Sauf que, bon, elle a un peu médiatisé la chose. Elle avait promis de ne pas le faire à son directeur de thèse, qui était donc Michel Maffezoli. Et cette thèse, donc, qui a été très très rapidement médiatisée, il y avait un monde fou à la soutenance. Alors, moi, j'ai pas pu y aller, hélas, mais j'ai des très bons amis qui ont assisté à la chose. C'est pas que c'était extraordinaire, il y avait des crépitements de flash.
Tous les
pour
médias.
Une soutenance de thèse en Sorbonne, ça le liard, c'est quand même bon. C'est la thèse absolue en principe. Hein. Et sa thèse, bah, clairement, enfin, si on la lit, hein, le mémoire qui fait 800 pages, hein, étant en interligne double, hein, quand on est à peu près... Bon, bref. C'est une thèse d'astrologie. Hein, sous couvert de faire la sociologie de comment, dans la postmodernité, les masses seraient ambivalentes entre rejet et attraction de l'astrologie. En fait, il y a clairement une défense et illustration de ce que l'astrologie pourrait, scientifiquement, hein, pour, en termes de compréhension des conduites humaines. Et ça va assez loin.
Hein. Est-ce que je peux rappeler juste un petit détail qui peut-être... Elisabeth Tessy était quand même assez proche d'un certain président de la République.
Plus que proche, c'était son astrologue officiel.
Voilà. Donc on avait un président de la République, la 5e République, François Mitterrand, qui avait, comme les bons rois mésopotamiens...
Tout à fait.
Une astrologue officielle.
Il croyait aux forces de l'esprit.
Ouais.
Et ça faisait enrager les collègues rationalistes qui venaient, à l'Élysée pour conseiller sur les questions sciences et techniques juste avant, notamment Jean Oudouze, avec qui j'avais parlé,
qui croisait
Elisabeth Tessier juste après, et qui avait beaucoup moins de temps. Et ceci dit, Jack Lang, qui était à l'époque, il me semble, au ministère de la Culture, était aussi pro-astrologie. Donc il y avait quand même une certaine adhésion locale. Et ceci dit, qu'on peut retrouver dans certains milieux universitaires, on en reparlera peut-être aussi. Et donc oui, il y a ce personnage sulfureux qui est là, en fait, très tôt, Elisabeth Tessier. Si on lit Le Temps des Tribus, qui est l'ouvrage de Maffezoli, un des plus célèbres, paru en 91, il y a une note de bas de page merveilleuse, mais c'est même pas une note de bas de page. Il évoque donc ces objets sulfureux, que l'élite bien-pensante, rationaliste, ne veut pas voir. Et par exemple, l'astrologie, il se trouve, et dit-il dans une des pages, que des gens très bien, même un préfet, parce qu'il organise des dîners en ville... Donc, un soir, un préfet, des intellectuels, un médecin et une astrologue. Une astrologue célèbre. Donc, on imagine que c'est vers 88-89. Tout le monde expose ses vues sur l'astrologie et tout le monde est relativement d'accord pour dire que quand même, c'est un savoir ancestral d'une certaine valeur et qu'on gagnerait à l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Et si on regarde de près certains ouvrages de Maffezoli un peu plus lointains, notamment L'ombre de Dionysos paru en 82, quand il évoque les forces telluriques, les forces du cosmos et tout, bon, ça peut prêter le flanc à une lecture astrologique, mais sans aucun problème. Donc, il y a cet attrait pour l'ésotérisme, qui est très présent chez lui.
Qui vient de son maître, non ? Ça ne vient pas de Durand ?
Oui, qui vient de Gilbert Durand. Ouais. Donc, il y a une pensée ésotérique qui est clairement présente, qui est... en fait, il faut lire entre les lignes. Tous les ouvrages, à partir des années 80, sont chargés d'allant de soi ou d'équivocité que seuls les initiés peuvent décoder. Et j'ai vraiment tout lu, et parfois plusieurs fois, dans les éditions différentes, donc c'est un travail un peu pénible. Et on voit disséminer ça et là des attendus de pensées occultistes, ésotériques, et la pensée même des tribus, des masses, de l'initiation, de comment on entre dans ces regroupements, est clairement crypto-ésotérique. Et ça infuse dans sa sociologie. Et ce qui est intéressant, c'est que très longtemps, ça a été reçu comme un truc tout à fait... Oui, c'est une sociologie de l'imaginaire comme une autre. Et on ne voyait pas tout cet arrière-plan qui était clairement explicite pour ceux qui pouvaient décoder. Mais encore fallait-il avoir les clés.
Donc, il se fait connaître du grand public à ce moment-là, cette thèse d'astrologie, enfin, de sociologie consacrée à l'astrologie. Il y a un scandale quand même à ce moment-là.
Alors, il était... Déjà un petit peu connu quand même. Moi, j'ai trouvé pas mal d'articles dans le Nouvel Observateur ou d'autres, et c'était, par exemple, je me rappelle d'un...
Il fréquentait quand même les médias,
exactement.
Les médias visibles.
Tout à fait. L'Obs, Libé, Le Monde, les premiers portraits, c'est 82-83, donc très très rapide.
C'était le sociologue de la petite bourgeoisie intellectuelle. Quoi.
Exactement, exactement. Et je me rappelle d'un numéro spécial de l'Obs, plus comment on l'appelait à l'époque.
Nouvel Observateur,
en 85. C'était sur le copinage, le népotisme dans l'entreprise, etc. Le favoritisme. Et lui, c'était la pensée un peu subversive en disant, c'est normal. C'est oui, évidemment. Je favorise mon clan, ma tribu, etc. Et donc, il légitimait les conflits d'intérêts en disant, oui, c'est la force des liens forts entre membres de même tribu. Ouais. Et donc, il déculpabilisait ce genre de rapport. Et ça, c'était vers 85. Et c'était tout à fait intéressant. D'accord, parce que c'était le moment des premiers scandales financiers, le moment où on commençait à regarder du du côté du RPR, ce qui se passait, c'était un peu bizarre, les HLM et compagnie. Et lui, c'était le sociologue qui, comme d'habitude, retournait la chose en disant « mais c'est normal ». Hein, il y a du tragique dans tout cela. Vous savez, la domination, les gens qui s'en mettent plein les fouilles, la corruption, ça fait partie de la vie sociale.
Je crois que ça, c'est peut-être une chose importante à préciser, c'est-à-dire c'est au-delà de l'aberration universitaire, qu'est-ce qui passe dans l'espace public de cette parole et qu'est-ce qu'elle vend aussi, peut-être, cette parole-là. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, elle peut vendre l'autolib qui rend heureux tout le monde et dans une grande jouissance. Donc elle peut vendre des projets étatiques, mais aussi une sorte de communication, quoi.
Tout à fait, ouais.
Du bonheur à travers des objets comme ça.
Ça, c'est un mouvement aussi que j'intègre dans l'analyse, qui est passionnant et qu'on peut tracer très, très précisément. Il y a un moment où, d'ailleurs, j'ai interviewé des gens qui étaient là, donc qui m'ont raconté. C'est la fin des années 80, des pubards hein, qui font du marketing et tout, sont intéressés par cette pensée subversive qui commence à devenir de plus en plus visible dans les médias. Et cette question du nomadisme, du tribalisme, nous sommes connectés, blablabla. Et c'est le moment du Minitel, par exemple, qui nous paraît aujourd'hui un peu lointaine, hein, mais c'était vraiment ça, les tribus connectées par le Minitel, 3615 code Maffesoli. Et donc des pubards commencent à assister à son séminaire en Sorbonne, où c'est quand même un peu sérieux, c'est universitaire et tout. Et l'idée commence à percoler du tribalisme des marques. Les marques, ça vous marque, pour reprendre un grand slogan des années 90. Et donc, c'est le moment où la marque devient signe totémique de groupe. Et ça va commencer à performer chez certains communicants qui vont imaginer donc la communication de marque en termes d'identité, de groupe, d'appartenance. Ça existait déjà hein, depuis assez longtemps. Mais lui donne une coloration un peu festive, euphorique, orgiastique, où on se...
Et savante,
par savante, ailleurs.
Avec
des mots latins, des oxymores, et la marque Sorbonne, qui est fondamentale. C'est le professeur de la Sorbonne qui nous dit des choses quand même assez dingues sur le monde contemporain, qui nous dit les choses crues. Hein, l'éros, le sexe, la mort, la jouissance, et les marques. Et on se vautre là-dedans. Et il y a en effet un côté, les années fric, les années 80, il y a un très bon bouquin d'ailleurs, de François Cusset, la décennie 80, que je vous conseille, une espèce de sociologie culturelle et d'histoire des idées de cette décennie 80, ce cauchemar des années 80, comme il le qualifie.
Il a été invité sur la liberté.
C'est un bouquin vraiment passionnant, et il est complètement dedans. C'est vraiment la pensée dominante de l'époque, c'est-à-dire le fric, la grande entreprise, le fait que, on s'agrège dans les villes autour d'événements festifs. Bon, bref, tous ces trucs très clichés des années 80, moi j'ai rouvert des numéros de...
La fête de la musique.
La fête de la musique.
C'est Jacqueline, oui, bien sûr.
Exactement. Donc tout ce truc-là qu'il incarne, dont il fait la sociologie et par ailleurs la promotion. Parce que lui, il va dire, mais c'est formidable. Jouissez dans les supermarchés, achetez, consommez, parce que dans la consommation vous existez, c'est magnifique. Vous consommez de la marque et à travers la marque vous existez dans des groupes. L'individualisme et tout son côté pathogène, je veux dire suicidogène. On est tous les séparés les uns des autres. Non, la marque, les marques crée de l'agrégation et de la fusion entre les êtres et ces facteurs de vivre ensemble. C'est merveilleux. Et là, j'emboîte le pas sur ce que tu disais. En effet, il y a un usage clairement politique. On peut faire toute une histoire politique de ces idées-là, mais par ailleurs aussi mercantile, clairement. Et aujourd'hui, ça se déplace depuis la communication vers le management. Donc, comment aujourd'hui penser l'horizontalité dans les entreprises, la disruption, l'agilité, l'être ensemble dans les open space ça marche aussi.
La performance, la compétence, tout ça.
On avait lancé un autre canular. J'ai pas été jusqu'au bout parce que en fait, j'avais presque la flemme, parce que je savais que ça allait passer. Ils ont lancé un autre numéro d'une revue qui s'appelle Management et Avenir, qui est une revue qui est sur Kern. C'est vraiment... Et donc, c'était un appel à communication, enfin un article paru, je ne sais... Exactement. C'était ce canular-là. Et l'idée, c'était donc de penser l'entreprise postmoderne. Et cette fois-ci, donc, des Belges. Cette fois-ci, c'était pas un Québécois, c'était des Belges, qui proposaient un article sur le management fraternel. donc qui réconcilie jouissance et performance. Et l'exemple n'était plus l'Autolib, mais le BTP. Et donc le BTP, on en faisait un lieu, là aussi, de festivité, parce que c'est bien connu, hein, sur les chantiers, on se marre, et d'horizontalité absolue, de franche camaraderie et d'abolition de l'autorité. Et donc ça, c'était le propos de cet argumentaire, qui a été accepté en fait par la revue. Et là, il fallait qu'on l'envoie, l'article, dans les deux mois. Je me suis dit, non, mais ils sont vraiment trop cons. Je peux pas. C'est pas possible. C'était l'affaire de deux jours de travail. Hein, où, et on avait déjà le plan, on avait commencé à écrire, mais on n'a pas été jusqu'au bout.
Oui, il y a une limite. Je comprends ta... Je comprends tes...
J'ai un métier à côté.
Oui, t'as un métier à côté. Puis en plus, là, c'est trop gros. Enfin, c'est, mais est-ce que, tout ce que tu viens de nous dire, c'est exactement ce dont on voulait parler. C'est-à-dire, quelles sont les influences réelles dans le monde concret de ces espèces d'idées comme ça? Parce qu'on pourrait se dire, comme on l'avait dit avec Philippe Huneman lors de l'émission précédente, hein, qui portait sur philosophie et postmodernisme. Après tout ça, quand ça reste dans des cercles universitaires, entre eux, ils peuvent se raconter toutes les conneries. Bon, c'est pas grave, c'est pas. Mais dans tout ce que tu viens de dire, c'est à la fois les conséquences de ce discours-là. C'est que comment des gens qui ont des intérêts économiques et politiques vont aller chercher ce genre de discours. Comment il peut y avoir des connivences entre un milieu universitaire et puis un milieu financier, économique. Comment des liens de complicité peuvent apparaître au sein d'une certaine catégorie sociale pour mieux exploiter et dominer d'autres catégories sociales. C'est ça, à mon avis, l'important.
On peut le tracer.
Il a fait des conférences au MEDEF. Et il me semble qu'il a été proche de Sarkozy à une époque.
Alors oui, il a même écrit un magnifique ouvrage dont je vous recommande la lecture, Sarkologie, pourquoi tant de haine, qui est magnifique. C'est une espèce de... C'est un acte d'amour. Voilà. C'est un acte d'amour et de foi. Mmh. Et effectivement, il y a eu un moment sarkozyste, où il prétend, noir sur blanc dans l'ouvrage, dire... Le monde tel qu'il est, de n'être pas normatif, alors que c'est vraiment un éloge hein, de ce qu'est Sarkozy, cet oxymore sur pattes, comme il dit, mais il le dit de tout le monde, hein, même de Johnny, j'ai vérifié. Et donc, sur Sarkozy, c'est le président situationniste, pour reprendre son expression, qui réconcilie tous les contraires, le capitalisme, mais en même temps l'amitié, la camaraderie, et quelqu'un d'une grande habileté stratégique, capable de cannibaliser là où il faut, du point de vue des idées un peu nauséabondes par moment, pour préserver son territoire, etc. Et aussi des pages admirables sur Carla. Hein, sur le conte de fées qui est offert aux Français. C'est ce moment féerique où le président se donne presque en sacrifice à ses compatriotes et leur vend une scénographie qui va les réconcilier avec eux-mêmes, c'est-à-dire Carla à Disneyland. C'était quand même, rappelez-vous, c'était ça. Hein. Ah ouais, l'officialisation, c'était quand même à Disneyland. Donc il fait toute une analyse confondante de ce moment. Et plutôt que de dire, bon, mise en scène... qui est là pour tirer les ficelles, les communicants, machin, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Bah lui, il prend le truc comme ça, en disant, c'est magnifique. Mmh. Et il a vraiment compris l'être profond du Français qui a besoin de rêver avec un président voilà, qui se donne à fond pour les faire rêver. Et ça, c'est quand même Sarkologie. Et en effet, il était assez proche et écouté à l'époque et récompensé par ailleurs, puisqu'il a eu un certain point au CNRS. Il a été nommé au conseil d'administration en 2005 pour, je cite, l'arrêté, sa haute compétence technologique et scientifique. Alors, il n'avait pas encore travaillé par extension sur Autolib, hein. Mais en tout cas, il a siégé au conseil d'administration du CNRS.
C'est
quand même pas rien.
La première institution scientifique française.
Voilà, c'est énormément de poids. Alors, moi, j'ai été vérifier les PV hein, des conseils d'administration, il n'est jamais là. Hein. Et s'il est là, il n'y a pas de trace de quelconque parole. Donc, c'est pas vraiment à quoi il a servi.
Un emploi fictif. C'est ce que tu sous-entends.
Rebondissement dans l'enquête. Donc, il était présent, il y a eu des renvois d'ascenseurs, clairement, et des nominations, notamment au CNU, qui est l'instance qui régule un petit peu les professions.
Collège national des universités.
Voilà, exactement, universitaire. Donc, il y a eu ça. À un moment donné, il a appelé à voter Sarkozy, alors qu'il dit Il prétend que jamais il ne vote, etc. Bon, n'empêche que il faisait partie des personnalités qui ont appelé à voter dans Paris Match, je ne sais plus quand exactement. Donc il y a eu clairement un basculement. Nous, on a interviewé, mon ami Manuel a été interviewé, c'était d'ailleurs déconcertant, Nathalie Kosciusko-Morizet. Qui, il se trouve, c'est comme ça, connaît très bien Maffesoli, pas simplement l'homme, mais aussi l'œuvre. Et elle connaît très très bien la glose sur les tribus. Elle peut réciter le temps des tribus, le tribalisme contemporain, et elle écoutait très fortement les conseils de Maffesoli à l'époque où elle était au ministère. Et par ailleurs, c'est un ami de famille, puisqu'il était témoin de mariage de monsieur. Donc il y a vraiment des rapports d'intimité dans les cercles de la haute administration et du pouvoir à l'époque. Bon là, c'est un peu la disgrâce aujourd'hui, parce qu'il n'avait pas forcément joué le cavalier Hollande en 2012. Mais n'empêche qu'il y a encore aujourd'hui une espèce de présence. Et il a su naviguer entre gauche et droite, très présent à droite, mais avant c'était Lang et Mitterrand. C'est d'autres réseaux. Mais une autre droite, en effet.
Oui, là, tu nous dessines le portrait d'un
caméléon.
Voilà, c'est ça, ouais, d'un caméléon, de quelqu'un qui...
Tout à fait.
Enfin, ouais. C'est vraiment une forme de portrait d'époque. Hein,
Je pense très fort à Rock'n'Game, le Colmao.
Voilà, du Colmao, Rotary Club.
Le retournement, ouais. Tu vois, des années 80. Et des gens qui oublient complètement ce qui les a fait bouger en mai 68. Et encore, pas tant que ça, parce qu'ils ne faisaient pas partie des gens les plus excités en 68. Mm-hmm. Donc il y a cette dimension-là de retournement de la critique, parce qu'il y avait une critique quand même assez féroce du monde contemporain dans les années 70, et retournement après, où en fait on devient complaisant vis-à-vis de ce qui se passe. Et on accompagne le mouvement, et on fait plus que l'accompagner, on le fait advenir en posant des mots sur ce que vivent les gens, et s'il y a de la souffrance, mais non, c'est de la jouissance. Aujourd'hui par exemple, moi je me rappelle, premier cours en amphi, le chômage, c'était le grand truc. L'exclusion, la précarité, ça commençait à émerger dans la fin des années 90, c'était vraiment les grands thèmes en sociologie. Et lui nous dit, en amphithéâtre, on était 250 étudiants, un peu jeunes, il dit, mais vous savez, le chômage, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver aux gens.
Ouais.
Parce que ils ont du temps pour eux-mêmes, ils peuvent jouir du temps libre qu'on leur octroie, vivre le chômage, et enfin, c'était ouais. Assez confondant.
Il y a eu un manifeste des chômeurs heureux, mais ça n'avait rien à voir.
C'était, voilà, et donc il y a eu une espèce de... je prends toujours le contre-pied en montrant qu'il y a de la jouissance là où on s'attend à voir de la mort, par exemple, et derrière une valorisation un peu... dandy, décomplexé, d'un mode de vie, de vie qui est dans la, comment dirais-je, où on se vautre dans le confort matériel de la modernité conquérante après l'avoir honni dans les années 70.
La petite incise qu'on peut faire quand même, c'est que avec ce parcours-là, c'est un homme qui a mis énormément d'argent dans sa poche.
Tout à fait.
Donc c'est un propagandiste du malheur des autres, mais lui s'est construit une richesse. Je ne sais pas si quelqu'un
matériel.
A pu l'évaluer, mais il doit. C'est un homme. C'est un anti. C'est un anti.
Complètement.
Qui a été payé et par l'État en tant qu'enseignant, enseignant-chercheur, avec tous les guillemets qu'on voudra, et par les gens à qui il a vendu sa camelote.
Complètement. Alors, ça, c'est une dimension, je ne sais pas si on a le temps de l'aborder là maintenant, mais qui me paraît éminemment importante. Alors, je suis chercheur au CNRS, j'ai mon petit salaire, mon petit traitement, j'avance lentement mais sûrement avec mon petit échelon, et je sais à quoi correspond un traitement CNRS. Ça va, hein, c'est pas non plus le grand confort. Il se trouve que, étant donné le fait qu'on n'est pas hyper bien payé, il y a une grande tentation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de faire des ménages, entre guillemets. De l'expertise, du conseil. Et il se trouve que là, c'est très peu encadré, en vérité. Et en l'espace d'une journée, on peut multiplier son traitement par trois. C'est très simple. C'est des séminaires d'entreprise, des conférences publiques facturées 10 000 euros. C'est un circuit qui est très visible. Il y a des cabinets qui s'en occupent. Certains intellectuels sont très, très agressifs, si je peux dire, sur ce marché-là. Et Maffesoli en fait partie. Il fait partie des pionniers, si je puis dire, de ce genre de business. Et clairement, pour lui, le salaire d'un professeur classe, je ne pense pas qu'il était classe exceptionnelle, mais en tout cas, il était en bout de carrière, il était peut-être à 6 000, pas loin.
C'est de l'argent de poche.
C'est de l'argent de poche. C'est 45 minutes de conférence. Hein. Donc il y a ce business-là, ça veut dire créer une société, hein, un cabinet de conseil ou je ne sais quoi. Et là, vous faites facturer donc les conférences, les expertises à la con, où vous allez dire à n'importe quel client qu'il est merveilleux. Hein, donc ça, c'est aussi une autre partie du business, mais qui est éminemment structurelle pour ces gens qui, à un moment donné, créent une entreprise. C'est une entreprise intellectuelle au sens fort du terme, c'est-à-dire qui vend quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle vend ? Alors, dans l'article, à la fin, j'écrivais, elle vend des biens de salut. C'est-à-dire, aujourd'hui, face aux crises, eh bien, on a besoin de thaumaturges, de thérapeutes, de gens qui vont dire que finalement, ça fonctionne quand même pas si mal. Et qui va acheter ce genre de choses ? Alors, tu as évoqué le MEDEF, mais ça peut être des cabinets de conseil, des grosses boîtes qui se posent des questions en termes de conduite du changement organisationnel, t'as un plan social ou je ne sais quoi, tu fais venir le sociologue de service qui va te dire que finalement c'est pas si mal, hein, l'agilité de nos jours, il faut bouger, hein, il faut se reconfigurer, les bifurcations dans les carrières, ça a du bon, donc le CDI, il y en a marre, bref, donc tu peux toujours trouver des sociologues pour vendre ce genre de cam, et lui fait partie clairement de ça. Sur les assurances, sur plein de trucs. Je me rappelle, par exemple, ça, c'est des conférences qu'on peut vraiment voir sur YouTube, chez les viticoles, chez les syndicats de la viticulture, il va dire, mais le vin, c'est formidable.
Dionysos, c'est ça.
Dionysos, Bacchus, allez, la jouissance dans l'alcoolisme, c'est génial. Et c'est ça qui nous rapproche les uns les autres. Bourrons-nous la gueule, achetons beaucoup de vin, vive la foire au vin. Et donc, le sociologue, keynote, hein, présentation, conférence inaugurale, va dire... C'est génial. Et évidemment, ça se paye ce genre de discours-là. Mais ceci dit, c'est complètement. Enfin, c'est pas improvisé. Ça vient complètement de sa came, de sa philosophie, du vouloir vivre, de l'être ensemble, mais qui est complètement convergente avec un certain capitalisme débridé.
On a longuement évoqué la figure de Michel Maffesoli. On a vu ses différentes. Son évolution, son parcours à la fois de. De professoral, d'universitaire, et puis ses motivations quand même bassement matérielles, hein, ce que tu as évoqué. On voit bien que ce qui motive ton discours à toi, puis à ceux à qui ont participé avec toi à ce canular, au-delà de la dénonciation simplement d'une posture intellectuelle, il y a quand même une critique un peu plus fondée, hein, celle de l'autorité, c'est ça, hein, c'est quoi cette autorité académique à laquelle tu t'attaques et que tu remets en question?
Alors ça, c'est en effet c'est une motivation qui était finalement latente, enfin pas complètement explicitée,
qui s'élabore
qui était très présente quand j'étais étudiant déjà à Paris 5. Il se trouve qu'avec Manuel Quinon, avec qui j'ai fait le canular, on suivait pas mal de cours et on était extrêmement critiques. Et ça nous arrivait d'ailleurs. Manuel a fait quelque chose d'extraordinaire avec une prof qui était d'ailleurs la fille d'Edgar Morin. Il avait fait un pour le devoir à rendre, il avait fait une critique de son cours. Une critique sur 50 pages. Tassée en 10, en caractère 10. Il lui avait remis à la fin du cours, elle était complètement dévastée. Et moi, j'avais fait un truc très putassier, j'avais eu 19. Bon, il fallait quand même manger, hein. Moi, je voulais avoir ma maîtrise. Hein. Et donc, j'avais presque fait un canular, hein, parce que j'avais été dans le sens de la prof. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'autorité diffuse qu'on apprend, avec laquelle on apprend à composer quand on est étudiant. Il y a des effets d'autorité qui sont ceux des profs en chair, qui tiennent à leur chair avec un E, là. Mmh. Des gens comme Maffesoli qui s'imaginent professeur en chair, qui va dire à tout le monde qu'il a la chair d'Émile Durkheim, ce qui n'a aucun sens, hein, ce qui est un fake absolu, et qui joue de la position structurale du prof qui peut énoncer des vérités du haut de sa chair, avec tout l'aplomb de celui qui sait quelque chose et qui va en jouer devant des masses d'étudiants qui, de toute manière, n'ont pas voix au chapitre. Et moi, ça m'avait copieusement énervé quand j'étais étudiant, très longtemps. Et j'avais eu la chance de trouver un professeur qui, à Paris 5, Jean-Michel Berthelot, qui est un épistémologue, un philosophe des sciences, rationaliste, qui nous avait agrippé en licence en disant « Ah, ça se passe pas avec moi, la sociologie ». On a eu beaucoup de chance. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, le positivisme logique, Wittgenstein en amphi, en maîtrise. Enfin, c'était fabuleux. Et il nous a sauvés. Il nous a enseigné l'esprit critique à ne pas prendre les vessies pour des lanternes. Et notamment les profs dont on suivait encore les cours au même moment en amphi. Et donc cette attitude très saine que Berthelot nous enseignait, notamment en séminaire, où on arrivait avec un texte et le texte était discuté sérieusement, où l'enjeu c'était quand même de faire de la science, cette attitude qui me paraît saine et constitutive de l'esprit scientifique était très peu présente ailleurs, et notamment chez Maffezoli et chez d'autres hein, à Paris 5. Moi ça m'énervait. Il me semblait que la science sociale devait remplir sa vocation scientifique. Et donc, j'avais toujours eu cette attitude-là, un peu énervée, disons. J'ai parlé de l'affaire Sokal, donc j'en ai fait mon sujet de maîtrise de sociologie, parce que c'était une polémique où se jouait la question de la vérité, l'esprit critique. Donc déjà, j'avais cette fibre, disons, et je l'ai toujours eue. Et depuis que je fais de la sociologie, voilà, il y a certains auteurs que j'ai toujours discuté. On n'a pas cité Bruno Latour. Bruno Latour, ça fait partie des auteurs que je discute, voilà, de façon un peu féroce, mais aussi parce que ça me semble sain d'être critique.
Tu peux indiquer que tu le discutes notamment dans ta revue.
Dans la revue Zilzol. Alors ça, c'est pas moi, c'est Jérôme Lamy, mon collègue là, avec qui j'ai fait le canular, qui, dans le numéro 2, a chroniqué de façon un peu brutale, disons, l'avant-dernier bouquin de Latour, Face à Gaïa, qui est une espèce d'ode théologique. Et donc cette attitude critique, pour moi, elle est fondatrice, elle est importante, il faut la valoriser. Et il se trouve que Maffezoli incarne l'antithèse de ça, quoi. Surtout pas d'esprit critique. Ne pas remettre en question la théorie qui vieux conise depuis 40 ans sur les mêmes fondements, qui est plaquée sur tous les objets, sans discernement, dans une indifférence totale à la vérité, à l'objectivité. Et tout ça, pour moi, c'est fautif. Hein. Et il faut le dénoncer. Et donc, le canular, c'était une espèce de stratagème un peu déplacé pour confronter et pour se jouer de l'autorité. Et à un moment donné, pour confondre les abus d'autorité intellectuelle. Et c'est ce moment qui était passionnant, hein, qu'on n'avait pas prémédité, parce qu'on savait que ça allait éventuellement susciter un débat public. Mais on nous avait bien dit avant que ça intéresserait personne. En fait, pas du tout. On a dû écrire assez rapidement des tribunes dans les journaux, où on nous a demandé « Mais alors, c'est quoi votre définition de la sociologie ? Qu'est-ce que vous défendez ? C'est quoi votre... Pourquoi... Enfin, qu'est-ce qu'il incarne Michel Maffezoli ? Comment ça ? Mais c'est une sociologie reconnue. Mais... » Bref, donc il a fallu justifier quelque chose. Et il se trouve que la question de l'autorité scientifique, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir énoncer des vérités au nom de la science, pour moi, c'était vraiment un grand problème. Et c'est devenu un des grands axes de la polémique publique. Et donc, ce canular, comme la critique qui a suivi, c'était une façon d'interroger cette dimension. Et pour moi, c'est crucial, parce que les sciences sociales, aujourd'hui, je l'évoquais précédemment, servent trop souvent des causes comme ça, font une espèce de marchandisation du savoir pour des causes qui sont extérieurs à la science, et je pense qu'il est de bonne méthode de valoriser une forme de rationalisme critique, et de le faire de façon intransigeante, quoi, jusque dans les médias, qui sont pas forcément prêts à recueillir ce genre de pensée un peu subtile, parce que à la fois il fallait contester l'autorité sans reproduire un discours d'autorité. Et ça, c'était pas forcément évident, parce que si on a 2-3 minutes sur France Info, il faut résumer un discours qui en même temps va définir clairement ce qu'on entend par sociologie, en même temps être subtil et nuancé, pas jouer les flics, parce que ça aussi, on a été accusé très souvent d'être des policiers de la pensée, comme l'a été Sokal en 96. Dès lors qu'on porte la critique sur les questions de vérité, on passe pour un flic. Donc on a dû déconstruire ce genre d'arguments, enfin de fallacieux. Mais tout ça, disons, encore une fois, le dénominateur commun, c'était cette question de l'autorité.
Alors, on n'est pas sur France Info, donc tu as eu...
C'est très confortable. Hein.
Plus que des minutes pour exprimer tous ces points de vue. On a vraiment fait un grand tour de la question. Là, pour terminer, on déborde un petit peu, mais on a un peu de temps. Il est paru il y a quelques semaines, quelques mois, un livre qui a fait couler pas mal d'encre. Des tribunes dans les journaux, dans les médias, sur la radio, signée par deux auteurs, dont un est un peu plus connu que l'autre, hein, Gérald Bronner et Étienne Géin, c'est ça,
ouais.
Dont le titre m'échappe.
Le danger sociologique.
Le danger sociologique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ou deux sur qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant de débats autour de cet ouvrage et quelle est sa place dans la discussion autour de la sociologie aujourd'hui?
Alors c'est
difficile, ouais, de résumer ça, mais...
En cinq minutes, ouais. D'autant plus que je suis critique, hein, par rapport à l'initiative de mes collègues. Il se trouve que je connais bien l'un des auteurs, Gérald Bronner, donc c'est encore moins facile d'y aller, hein, dans la critique. Et en gros, c'est un essai assez court, hein, d'un peu plus de 200 pages, qui, sur foi d'un diagnostic de déclin et de crise de la sociologie française contemporaine, qui est illustré par quelques faits, notamment les canulars. Donc on est cité comme illustration d'un mal, hein, qui gagnerait une partie de la sociologie française. Donc sur la base d'un diagnostic de déclin et de crise, ravive, disons, la défense d'une sociologie qui serait plus scientifique que l'autre, qu'il qualifie d'analytique, qui ferait des passerelles avec les neurosciences, l'ingénierie informatique pour analyser les big data, etc. Donc une sociologie plus scientifique que les autres, qui romprait aussi avec la sociologie qu'il considère comme dominante, celle de Pierre Bourdieu. Voilà. Et donc dans l'ouvrage, il y a une espèce de théâtralisation d'une opposition entre, d'un côté, Durkheim et de l'autre, Weber, qui serait réincarné à travers Bourdieu d'un côté et Boudon de l'autre. Boudon qui s'avère être le maître de Gérald Bronner et Étienne Géin. Et de l'autre côté, on ne sait pas vraiment, les Bourdieusiens. Et ce qu'il reproche à Bourdieu, aux Bourdieusiens, déjà, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin, mais lisez le compte-rendu que je vais publier dans la revue Zilzel en janvier. Hein,
On aura les références.
Ouais. En gros, ce qu'il reproche, c'est déjà d'avoir une sociologie très fautive, du point de vue des modes d'analyse, parce que déterministe, ce serait une sociologie qui adhérerait à une vision complètement passéiste de la société comme entité qui surplomberait les parties, c'est-à-dire les individus, et surtout une sociologie qui prêterait le flanc à une forme de complotisme. Vous savez, les choses seraient cachées en deçà des réalités sociales, il y aurait des dominants, par exemple, et la domination, comme chacun sait, ça n'existe pas. Hein. Et donc, une sociologie déterministe, dominante, dominatrice, qui étudie la domination et qui, par ailleurs, est très politisée, voire même militante.
Donc lui, il pense que la domination n'existe pas, mais il y a néanmoins une sociologie dominante.
C'est un peu une contradiction. Oui, alors, exactement. Bon, mais après, sur la domination, ils sont
un peu... C'est un peu pour rire ce que je dis là, mais c'est un peu vrai.
Il y a un peu de ça. Et puis sur les mécanismes de la domination, le simple fait que la domination ne soit pas directement observable et portée par des individus, prête le flanc à la critique de complotisme. Hein. Comment ça, le capitalisme serait opéré par des instances invisibles? Bah oui, un petit peu. Hein. Il suffit simplement d'enquêter, hein, sur les transformations du néolibéralisme. Bon, bref, passons. Mais il y a une espèce de pensée un peu étrange de ces phénomènes tels qu'ils se configurent aujourd'hui. Et par ailleurs, donc, défense et illustration de ce qui devrait être le mainstream de la sociologie scientifique d'aujourd'hui, c'est-à-dire leur programme. Sauf que leur programme est relativement marginal dans la sociologie française aujourd'hui. Et comment dirais-je, l'opposition qu'il réifie, enfin, tel que je le vois, hein, de mon petit poste de CNRS chargé de recherche au CNRS, je ne vois pas cette atomisation entre deux camps. Hein. Il y en a beaucoup plus, en vérité, beaucoup plus de courants, de théories.
Et celui dont on a abondamment parlé et qui mériterait une volée de bois vert plus importante que...
Lequel?
Pas citer les...
Oui, sans doute, peut-être.
Alors, après, non, on en a parlé abondamment.
La théorie de l'acteur réseau, non? Sociologie de l'imaginaire de...
Bah, les Latour, les Maffesoliens, même si Maffesoli est en bout de course, des Maffesoliens, ouais, il en reste. Montpellier, les Tacucelles, les gens comme ça, etc.
Oui, oui.
Je veux dire, ce sont des gens à qui il faut s'en prendre quand on veut nettoyer devant sa porte, en sociologue conscient des enjeux. Donc c'est vrai que l'accusation de bourdieusisme, elle est vieille comme, comme Bourdieu.
Complètement.
Enfin, comme la pensée de Bourdieu. Mmh. C'est homogénéiser une pensée qui est très hétérogène, qui n'a peut-être même plus d'unité réellement. Mmh. Enfin, je parle sous ton autorité, évidemment. Enfin, ton autorité intellectuelle, j'entends. Mais comme je me souviens du très bon livre de Bouvresse, Défense de Bourdieu.
Tout à fait.
Ouais. Voilà, il faut lire des livres comme ça. Hein. Et puis, il y a des Bourdieu cons, hein, comme des bourdieusiens cons, je veux dire, comme dans toute obédience. Donc, c'est vrai que c'est un peu grossier comme procédé. Quoi.
C'est grossier, et puis en effet, enfin, ça vient de très loin. Dans le bouquin sur Maffesoli, il y a tout un passage sur la haine de Bourdieu. Il se trouve que les premiers vulgarisateurs de cette haine, c'était Edgar Morin, qui invente le bourdivinisme. Et Maffesoli. Il y a une haine, mais qui est vraiment là depuis les années 70 et qui est intéressante à analyser aussi en tant que telle. Il catalyse beaucoup d'agressivité. Et donc, le champ est beaucoup plus éclaté que ne le disent les auteurs, quand on regarde de près, et si on se donne le temps de lire. Moi, je trouve, des bourdieusiens, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oui, je suis un peu bourdieusien », mais moi, c'est pas une espèce qu'on peut observer comme ça, dans les couloirs des universités.
Il y a encore plus théorique et méthodologique chez Bourdieu.
Bien sûr. C'est pas simplement une glose. Ouais.
Moi, je me permettrais d'avancer une idée comme ça, c'est quand, parce que j'ai un peu fréquenté ce milieu-là à une époque, peut-être que là aussi, ils sont un peu en fin de course, parce que c'était les 60, la même génération que Maffesoli, qui ont eu des postes, quand il y a des postes qui se sont créés, c'est les marxistes.
Ouais.
Il y a quand même une haute densité de sociologues marxistes, là aussi le terme est vague, mais on comprend quand même, qui ne sont pas nécessairement bourdieusiens, parce qu'on peut être l'un sans être l'autre, etc. Et qui ont peut-être aussi un petit peu sclérosé la discipline. Et peut-être qu'il confond les deux, je ne sais pas.
Je pense qu'il y a ça, et puis il y a une espèce de fascination pour ce qui se passe à l'extérieur. Et donc il y a la sociologie états-unienne, hein, qui elle serait absolument scientifique, sérieuse, robuste, dans des grandes facs, la Ivy League et tout. Quand on regarde de près, en fait, la sociologie américaine est très engagée. Très engagé. Le dernier congrès de l'American Sociological Association, c'était sur les inégalités, les injustices sociales, avec un discours en faveur de la démocratie participative, les luttes contre Trump, etc. Donc c'est assez intéressant de regarder de près les arguments et puis les malentendus dans les façons de défendre une certaine sociologie. C'est-à-dire que, à la fois, donc, les gens qui le considèrent comme militant, le sont pas tant que ça, en fait, quand on regarde de près. Les modèles à imiter sont vachement militants, et eux-mêmes le sont, mais sans le dire vraiment. Et moi, ça me gêne un petit peu, sans aller... ça serait peut-être une autre émission, mais Gérald Bronner, publie des chroniques dans Le Point qui sont éminemment engagées et engageantes, et qui propose des diagnostics sur l'état de la politique, sur tel ou tel sujet de société, et on est souvent dans le devoir-être, sur il faudrait faire, il faudrait s'orienter de telle ou telle façon, au nom de la raison, etc. Donc, il y a des formes d'engagement. Après, on peut les discuter, c'est normatif. Même ces essais précédents, La démocratie des crédules, La planète des hommes, c'est constamment chargé de jugements. Et pourquoi pas, à la rigueur, c'est de l'essayisme. Et on peut parfaitement imaginer des chercheurs en sciences sociales s'engager politiquement. Pourquoi pas? Mais moi, ce qui me paraît nécessaire, c'est quand même de réfléchir sur l'interaction entre science et engagement et d'essayer de réfléchir à ne pas trop brouiller. Et il y a certains sociologues qui permettent de penser ça. Alors j'ai fait une tribune, parce que moi aussi j'ai contribué à ces coulées d'encre dans l'humanité il y a 10 jours, où je citais Charles Wright Mills, un grand sociologue américain, critique marxo des élites américaines sous la guerre froide, un enragé de la critique sociale, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et dans l'imagination sociologique, il dit à la toute fin, sur l'engagement du sociologue, le simple fait d'énoncer des constats de faits, de vérité sur les choses telles qu'elles sont, les inégalités, l'ordre social, dès lors que l'on publie, que l'on met en jeu les énoncés de faits, dès lors qu'ils entrent dans des boucles de conflits sociaux, ça engage. Parce qu'il faut défendre aussi le constat. Mmh. Et donc, c'est pas que le constat initialement est chargé intrinsèquement d'idéologie, c'est qu'il y a tout un travail d'accompagnement qui peut le devenir. Et la question qui me paraît centrale, plutôt que de se gargariser d'une neutralité axiologique, etc., au nom de la science, c'est de contrôler les effets de la normativité jusqu'au bout. Moi, je travaille sur l'entrepreneuriat scientifique aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'exaspère en tant que citoyen, en tant que chercheur, parce que ça détruit nos communautés scientifiques. Mais comme objet, je fais des entrevues, comme on dit au Québec, avec des start-upers qui prennent parfois des heures entières. J'ai interviewé des capital risqueurs à San Francisco. Je prends beaucoup de temps pour essayer de comprendre leur monde. Et là, oui, je fais le boulot de base du sociologue qui doit être au maximum neutre et suspendre son jugement.
Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage sur un débat
dont j'ai pas dit grand chose, mais bon,
compliqué, mais quand même il y a quelques pistes à suivre. Donc je voudrais rappeler simplement que tu es un des animateurs d'une revue qui s'appelle Zilsel. Alors ça s'écrit
Z-I-L-S-E-L.
Z-I-L-S-E-L. On trouve sur internet, il y a un site.
Un blog, au départ c'était un blog, oui, tout à fait.
Zilsel.com, non
c'est Zilsel.hypothèse au pluriel, .org. Et Zilsel, juste pour le situer, c'était un grand philosophe viennois du cercle de Vienne, ouais. Austro-marxiste, qui a énormément fait pour. Qui a contribué à la sociologie des sciences dans les années 30.
Donc Zilsel, Z-I-L-S-E-L, on tape ça sur un moteur de recherche sur internet et on trouve le blog. Il y a une revue papier aussi.
Le numéro 3 sort en janvier. On est en train de boucler.
Ça se trouve pas en kiosque, mais
pas encore en kiosque. Pas encore dans les relais.
Dans les bonnes librairies, on trouvera donc ce numéro 3 qui sera donc
disponible. Et sur le site de l'éditeur Croquant. Les éditions du Croquant.
Très bien. Voilà, et donc dans ce numéro 3, il y aura ta chronique, donc ta recension du livre de Bronner et Géhin. Et tu prépares un ouvrage sur Maffezoli et le Coran. Merci encore Arnaud pour,
merci pour votre invitation.
Pour tes éclairages.
Par le diable, vos espoirs en un instant balayés par un vent de sable. Sur cette place désarmée, désormais, les soldats montent la garde sur les ruines du palais. Je me languis de toi et je t'attends. Je sais ce sont les mots d'un autre temps, mais le temps m'a joué tant de tout. Je peux bien ignorer et le snober à mon tour. Comme cette pierre au creux de ma main, je veux sentir l'odeur de ton jasmin. Ton nom, tout contre mon nom. Je te devine et pour nous deux, je redessine un autre mot. Emporté par la foule, tout un palais qui s'écroule.
J'avais à l'autre bout du village un vieux cousin à héritage qui était riche, on sait pas combien, Mais le malheur, il se portait encore bien. Et malgré ça, grande vieuture, il tenait point à sauter le pas. Moi, je me disais, crèvera donc pas. Bon Dieu que les vieux ont la vie dure. À la fin des fins là d'attendre, un vieux soir qui gelait à pierre fendre et qui faisait partout noir comme poêle, sans rien dire, je cavale de chez moi. J'entre un coup de vent dans sa masure, j'y tombe dessus, j'y serre le collet. Mais le bougre il voulait point, il renaclait. Bon Dieu que les vieux ont la vie dure. À présent que j'ai son héritage, on me respecte partout dans le village. On est prévenant, on est poli, mais chaque fois que je couche dans son lit, pendant tout le temps que la nuit dure, il vient rôder autour de mon chevet pour m'en faire autant que j'y en ai fait. Bon Dieu que les morts ont la vie dure. Bon Dieu que les morts ont la vie dure.
Qu'un jour ça resservira. Au fond du placard, je mets les encombrants. Entre l'ours bavard et le carton de vêtements, il y a une boîte crânienne, la mienne. Il y a une boîte crânienne, la mienne. Je l'avais oubliée, je ne m'en servais plus. Je me suis réveillée quand j'ai entendu.
Bande de cerveau dispo.
Ah.
Bande de cerveau disponible.
Ah.
Sauces à servir,
ah.
Maintenant de cerveaux à servir.
Ah, ah. On dit que spéculent les marchands de soda. Mon crâne minuscule, il vaut tellement que ça. L'encéphalogramme plat comme de l'eau plate. C'est le programme, les petites bulles s'éclatent dans une boîte crânienne, la mienne. Dans une boîte crânienne, la tienne.